Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une heure encore qui écoute les artistes par les temps qui courent. C'est tous les soirs et ce soir on est ravis de recevoir Marussia Diaz-Verbeek.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bêta, 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 bêta.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux
ramassait la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Comment se parler sans se parler? Comment se parler en se taisant? Le pacte, c'est qu'on ne se parlera pas directement. En début de ce spectacle, Circus Remix, vous tournez sur vous-même, milieu de piste et costume sobre, faisant tomber au sol des feuilles aux inscriptions claires. Des mots en noir sur blanc, comme un moyen de plus de dire quelque chose, un moyen de laisser les spectateurs se dire à eux-mêmes ce qu'ils ou elles lisent et de laisser leurs pensées leur transmettre la vôtre. Je vous cite. Bref, il sera question de transmission et le mot est bien trouvé quand on sait le travail que vous avez effectué à partir d'archives sonores et radiophoniques. Marussia Diaz-Verbeek, car une fois la totalité des feuilles tombées au sol, c'est un vinyle que vous avez en main, vous le placez sur le tourne-disque et place au cirque. Un cirque qui découpe dans les mots des autres pour raconter le monde, le corps, cet art, ce lieu et un peu de vous aussi. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Marussia Diaz-Verbeek, Circus Remix est joué jusqu'au 8 février, demain soir, à Cergy Pontoise. Ensuite, ce sera à Lille, au Prato, les 3 et 4 avril. Et ensuite à Elbeuf, au Cirque Théâtre d'Elbeuf, les 9 et 10 mai. Et ensuite en tournée, en 2019. Il n'y a pas de date et lieu, mais bon, ça va tourner.
Oui.
Ça va rouler.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous allons, si vous le voulez bien, reprendre plus en détail, mais c'est pas vraiment la seconde diffusion stéréphonique de quelques exemples de visite.
Humanétique, bonsoir.
1893, 1894, 1895, 1896.
Radio Nova? Radio Nova?
Yes, is this the Buffalo operator?
Kind of, yes.
Mais si ça répond pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse?
1918.
La radio, c'est pas forcément des choses dont on se souvient, mais ça ensemence.
Ce soir, chers auditeurs, nous vous ferons entendre, dans la série des succès radiophoniques, L'étoile des mers, d'un jeune poète, Roger Richard.
L'étoile des mers.
Les nuits du bout du monde, une émission écrite et présentée par Stéphane Pisella.
Fouilla dans la poche de son manteau, à la recherche d'un mouchoir, et ses doigts sentirent le contact de l'acier, les ciseaux qu'il avait dérobés dans le petit bistrot des Gitans. Il les prit, les serra dans sa main. Il regardait fixement la morte. Il n'entendait plus sa voix, cette voix d'autrefois qui ne résonnait, ne revivait plus qu'en lui, au plus profond d'elle. Ne restait rien.
Particulièrement le travail de Xavier Garcia, dans cette émission. Et ici, on entend un morceau qui s'appelle Bande FM, avec des découpages d'archives, entre autres, et de la composition musicale. Et cette phrase attrapée au vol qui dit « La radio, ça ensemence ». Est-ce que vous n'avez travaillé qu'avec des extraits des archives de radio ?
Oui, pour ce spectacle, toutes les voix qu'on entend dans le spectacle sont uniquement, effectivement, des extraits d'émissions de radio. C'était à un moment, j'ai pris ce parti. Je me suis dit, allez, on y va, on fait ça, on fait que le texte à partir d'archives radio. Que chaque petit bout, collé les uns à la suite des autres, crée un nouveau texte. Et après, ça a été vraiment la plongée dans les archives, dans le fait d'essayer de trouver les mots qui manquaient, de chercher, et de trouver encore mieux que ce que je voulais trouver. Et ça a été un travail passionnant, en fait.
Ça veut dire qu'il y a un texte préexistant et qu'ensuite votre plongée dans les archives vous permet, comme avec un jeu de Lego, de le composer ?
Ouais, ben, alors ça s'est fait vraiment entre les deux. Bon, j'écoute personnellement beaucoup la radio depuis des années. Et quand j'entends une phrase qui m'interpelle, ou à laquelle je pense par rapport à quelque chose du cirque, d'un spectacle, ou pas forcément, il y a juste une phrase, je me dis, tiens, elle est marrante, ou etc. Je la note et je la référence sur un cahier.
Depuis toujours. Enfin, en tout cas, depuis que vous écoutez
la radio. Vraiment, voilà, 6 ans, on va dire, 6-7 ans.
Et précieux.
Ouais, et alors j'ai fait un comme ça, un espèce de catalogue personnel de petites phrases de radio. Et quand je me suis mis vraiment à faire ce texte, j'ai écrit un texte à partir de mes souvenirs. Je les connais pas toutes par cœur, évidemment, mais à partir de ces...
De ce dont vous saviez avoir à disposition. Quoi.
Voilà, donc je me suis arrangée pour quand même utiliser certaines phrases. Et puis après, quand j'avais ce texte, donc avec énormément de trous finalement, je suis allée rechercher dans les archives radio. Et j'ai travaillé avec Élodie Royer, qui travaille sur l'émission de L'Heure Bleue avec Laura Adler, et qui connaît bien aussi cette relation aux archives. Et à un moment, je me sentais moi-même en fait complètement dépassée par la quantité d'archives qui existent, collectées et rassemblées par l'INA, parce que c'est des années, des millions d'années presque, d'archives. Et alors, même au niveau de la méthode, de la manière de référencer, je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée, en fait, dans cette traversée de l'océan de la radio. Et donc, on a fait ce travail avec Élodie, d'aller-retour entre ce qui existait et ce qu'on trouvait de mieux, qui, en plus, c'est vraiment du collage, effectivement, il y a un côté Lego et il y a plein de surprises, il y a plein de hasards.
Ça veut dire aussi que vous vous êtes déplacé parfois par rapport à votre intention initiale de dire quelque chose, vous êtes un peu laissé faire par l'archive ?
Oui, complètement. Mais comme
vous avez des souvenirs précis, par exemple, de vouloir exprimer quelque chose sur le cirque ou d'écrire ce texte-là du spectacle, et en fait de trouver une archive qui ou bien précise votre idée ou bien la transforme légèrement.
Ben, c'est quasiment que comme ça, en fait. C'est, par exemple, le numéro de la marche au plafond qui est présenté par une voix qui dit « Et maintenant, nous allons voir la chose la plus inutile du monde. » Et la personne qui parle de la chose la plus inutile du monde, elle parle en fait des mathématiques et dans l'absolu, pourquoi finalement essayer de voir le monde avec des chiffres ? Est-ce que c'est pas la chose la plus inutile du monde ? Et moi, c'est en entendant cette phrase que ça me fait penser au cirque. Et ça correspond à quelque chose que j'aurais voulu dire, sûrement, mais c'est en l'entendant que ça fait vraiment tilt. Ou par exemple, j'entends une émission avec Annie Fratellini qui parle de ses petites sandales bleues. Et en fait, dans mon costume, à un moment, j'ai un costume de clown qui a des sandales bleues. Du coup, je me dis... En fait, j'avais pas forcément envie de parler des chaussures, mais là, je vais faire en sorte que il y a un jeu avec le fait que on reconnaît le clown parce que justement, il a des sandales bleues, etc.
C'est aussi une manière de répondre à l'une de vos questions pour ce spectacle, Maroussia Diaz-Verbeck, c'est comment on peut se parler sans se parler. Et l'une des choses que vous proposez, j'ai l'impression que c'est aussi en se laissant faire par la parole des autres, ou en se laissant comme pénétrée ou colonisée par ça?
Ben oui, déjà le rapport à la parole, il vient, c'est quelque chose intuitivement quand depuis le départ en fait que je fais des spectacles de cirque que j'utilise sans savoir à la base pourquoi. J'ai un rapport qui est assez fort avec les mots et le cirque est à la base vraiment physique. Et le fait de faire passer ces mots par la voix n'a jamais été spontané. Ça a jamais été quelque
par
chose
votre
qui
voix, vous
voilà
dire.
Par ma voix à moi qui m'était familier. Et en fait, j'ai découvert par la suite que il y avait une loi qui avait interdit la parole au cirque en 1806 et 1807.
Aux artistes sur la piste.
Aux artistes sur la piste, pour vraiment, en fait, pour différencier, pour le différencier du théâtre et pas le concurrencer. Des théâtres privilégiés, c'est le cirque est un art qui a une liberté assez incroyable, même au niveau de sa définition. Historiquement, il a eu aucune obligation d'être ceci ou cela. Il a eu l'obligation, par contre, de ne pas être du théâtre et donc de ne pas utiliser de la parole.
Et à l'exception du monsieur Loyal qui introduit et qui dit mais ça, mesdames, messieurs, place au cirque.
Voilà, alors monsieur Loyal, il vient après quand ce décret qui dure une cinquantaine d'années s'arrête. Et effectivement, cette parole, quand monsieur Loyal il arrive, elle est toujours périphérique finalement. Elle n'arrive jamais à l'intérieur du numéro de cirque. La parole finira jamais par être le centre puisque, enfin, ma lecture, c'est que cette interdiction, elle a agi comme un moule finalement sur le cirque qui a gardé cette trace et qui s'est développée sur tout ce qu'il y a d'autre que la parole, c'est-à-dire le corps, l'exploit, les animaux, la relation avec l'enfance, les autres langues, les pays, c'est-à-dire que c'est un spectacle, le spectacle de cirque, ce sont des spectacles qui peuvent vraiment bouger dans tous les pays du monde sans la barrière de la langue. Donc en fait, ça a fini par construire les spécificités, enfin ce que moi j'imagine être les spécificités de cet art-là. Donc la question de la parole, elle est, plus je m'y intéresse, plus elle finit par être centrale par son absence quelque part.
Et par conséquent, utiliser l'archive ou utiliser la parole sonorisée, c'est une manière de contourner l'interdiction de la parole de l'interprète. C'est-à-dire que vous continuez à être un être agissant et muet. Et en même temps, ben, vous prenez la parole de mille façons.
Ouais, exactement. C'était vraiment, je voulais vraiment m'inscrire dans la suite quelque part de ce qu'avait vécu le cirque, c'est-à-dire cette interdiction de la parole là, parce que derrière, ce qui se passe par rapport à cette interdiction, c'est évidemment tout l'art du détournement. Comment on va quand même parler sans parler? Qu'est-ce qui reste comme possibilité pour utiliser les mots sans la parole directe? Et parler avec la voix des autres, c'est une manière d'être innocent par rapport à cette interdiction-là.
Pas innocent tant que ça, puisque vous la recomposez et vous jonglez avec.
Et maintenant, un petit intermède. Petit machin, quoi.
Qui semble assez simple.
Une partie de jonglerie.
Alors, évidemment.
Qu'est-ce qui est jonglable? Qu'est-ce qui est un jonglable? Les cactus, les pneus de camion, énormément de choses finalement, tout est un jonglable.
Mais rien n'est impossible. Alors.
En réalité, c'est plutôt.
Une tentative de jonglage.
Avec un élément pas tellement palpable.
Avec ce qui est.
Pour nous.
L'instrument indispensable.
Les mots. C'est quelque chose de saisissant. C'est vraiment un autre monde.
Mais c'est le problème des paroles.
Il y a des mots qui entraînent à dire des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on voudrait dire.
Alors.
Avec tout ça, on bidouille.
On les lance, et ensuite ils
restent suspendus au-dessus. Et tombent de manière aléatoire, et finalement jamais au bon moment.
Bon voilà, et puis bon, vous baissez, vous accroupissez, vous les rattrapez.
Vous
voulait lancer les mots et puis il retombe et puis il retombe pas exactement dans le sens qu'on avait prévu. On entend ici cette fois un extrait de votre spectacle, Circus Remix, Maroussia Diaz-Verbeck, qui commence par cette question, qu'est-ce qui est injonglable ? Ce qui est injonglable, c'est plein de choses. Et ce sont éventuellement les mots, puis ensuite vous mettez ça en application, puisque vous jonglez non pas avec des mots, mais avec des grandes lettres. Commence à composer le mot « mot » et puis le mot « mort ». Est-ce que ça veut dire que votre propre art à vous, il fonctionne, comme vous le disiez tout à l'heure, en creux, par ce qui n'est pas disciple, ce qui n'est pas jonglable, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas faisable ?
C'est vrai que cette question de la négative, elle est très familière à mon avis au cirque. Parce que il y a l'idée de faire du cirque, c'est faire ce qui ne se fait pas. Il y a souvent cette idée de faire le contraire, de faire quelque chose qu'on n'a pas souvent vu. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à voir avec la négative, le renversement, etc.
Quand vous décidez de jongler avec un des mots, c'est le mot mort rapidement qui arrive. Pourquoi ?
Parce que la mort me semble être une des questions qu'on traverse en fait dans le cirque, dans le sens où on est sur cette question de prendre des risques physiques, jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller, jusqu'où aller trop loin. Et en même temps, c'est traité d'une manière très légère, c'est-à-dire que en retournant au fur et à mesure vers le cirque classique, j'ai vraiment redécouvert en fait cette légèreté. Donc il y a une opposition entre peut-être la chose la plus grave au monde qui est la mort et en même temps voilà une légèreté, le fait de vraiment être dans un certain dynamisme et c'est pour ça que la mort à la fin je la jette en l'air comme si c'était pas important parce que il y a cette tentative évidemment vaine d'avoir cette relation je pense à la mort, quand on voit les acrobates, les dompteurs, etc., la question, c'est venir se mesurer à une difficulté et toujours plus grande et sortir vivant.
Et quand vous dites en revenant au cirque classique, est-ce que vous pouvez dire un petit peu le trajet qui a été le vôtre et qu'est-ce qui fait que vous dites que vous revenez ?
Oui, j'ai fait les écoles de cirque contemporain en France. Donc, le cirque contemporain, sans rentrer trop dans les détails, il y a une rupture à partir des années 80 par rapport au cirque classique pour renouveler les codes, les questionner. Et moi, je suis vraiment issue de cette formation-là qui s'est donc construite en opposition, là encore, à la négative de la négative, du cirque classique, qui était sûrement une étape nécessaire. Et je suis allée tellement loin dans ce projet de faire de l'anti-cirque, quelque part.
Qui vous amenait où, par exemple, pour donner des images ?
Qui m'amenait, par exemple, je montais sur la corde, je prenais de l'élan, je montais toujours plus haut pour arriver à faire la figure, et puis finalement, je la faisais pas, je redescendais. Donc, voilà, il y avait ce jeu avec
l'attente, avec les représentations, avec le spectacle voilà, avec qu'on aimerait.
Avec tout ce qui peut faire le cirque. Et en fait, en allant toujours plus loin dans cette idée-là, avec la recherche qu'on a fait avec le collectif Ivan Mozhoukin il y a maintenant quelques années, au bout d'un moment, en fait, en se libérant des agrès, des techniques de cirque, du cercle, des numéros, etc., j'ai eu l'impression d'aller un peu au bout de l'impasse. À un moment donné où j'étais en train de travailler, je me suis vraiment plus retrouvée du tout à faire du cirque. Et ça a fait un espèce de vertige parce que j'ai une vraie passion pour le cirque. C'est ça qui m'a fait axer complètement ma vie autour de ça. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais là, il me manque quelque chose de trop fondamental personnellement. Donc, s'il me manque quelque chose, si c'est le cirque qui me manque, qu'est-ce qui me manque, en fait, dans le cirque ? Puisque j'avais plus ou moins l'impression de faire du cirque, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, je fais un virage avec cette interrogation,
qui n'était pas présente en fait avant. Sur
l'interrogation qui était, si il est en train de me manquer quelque chose que j'appelle le cirque, alors dans ce cas il faut que je sache qu'est-ce que j'appelle le cirque.
Exactement, et qu'est-ce que le cirque, l'interrogation, qu'est-ce que le cirque finalement. Et pour commencer à répondre, j'ai rencontré des gens du cirque classique, des intellectuels, les rares intellectuels qui s'intéressent à la question. Et je suis retournée effectivement pour voir des spectacles de cirque classique. Et là, j'ai commencé à réfléchir à une distinction en fait entre deux mots qui sont l'acrobatie et le cirque. Parce que je pense que ce qui m'avait induit dans le chemin de « en fait, je fais toujours du cirque, ce que je fais, c'est toujours du cirque », c'était que c'était lié juste à l'acrobatie. Mais pour moi, aujourd'hui, le cirque est beaucoup plus que l'acrobatie, dans le sens où l'acrobatie fait partie du cirque, mais le cirque est un moyen de composition, c'est une forme de spectacle, et très particulière, à part entière, qui est pas finalement si proche du théâtre, si proche de la danse, qui est une logique de la fragmentation, avec les numéros, il y a l'idée de diversité qui est très forte, par exemple. Etc.
Et ce détour-là par des interprètes, par des chercheurs, etc., c'était quelque chose que vous faisiez en même temps que de continuer à faire ce que vous étiez en train de faire, que vous continuiez d'appeler le cirque?
Oui.
Votre pratique, vous la lâchiez pas pendant ce temps-là?
Non, je l'ai pas lâché. C'est vraiment mon goût pour la théorie. Il est vraiment en relation directe avec des questions très, très concrètes de création. Et même l'utilisation aujourd'hui du mot circographie, parce que donc il n'existe pas de mot pour définir justement cette composition particulière du cirque, cette mise en scène du cirque. Il y a mise en scène pour le théâtre, chorégraphie pour la danse, mais pour le cirque il n'y a pas de terme. Et donc à un moment je me suis lancée et je me suis dit faisons-en un puisqu'il n'y en a pas. Et donc j'utilise le mot circographie, qui veut dire aussi soyons fous en lituanien, donc c'est ce que je voulais dire, donc c'est très bien. Et le fait de mettre un mot tout d'un coup, ça autorise et ça ouvre un espace de pensée qui est énorme, puisque tout d'un coup je peux m'interroger sur quels sont les éléments particuliers de la circographie. Je peux me dire circographe, et donc je peux complètement investir ce terrain-là sans être collé forcément à des notions de mise en scène et de chorégraphie. Et donc il manque quasiment tout un vocabulaire propre au cirque. Et donc c'est ces mots-là qui permettent vraiment de réfléchir concrètement à comment faire tel spectacle, tel autre.
Comme quoi les mots c'est important, on dit toujours les mots c'est important, le langage c'est important, mais là en fait par la pratique, par une expérience absolument concrète et empirique, Maroussia Diaz-Verbeck, vous dites sans ce mot-là je pouvais pas faire, je pouvais plus faire. Il a fallu qu'il y ait un mot, que je puisse l'inscrire, que je puisse dire c'est ça que je fais pour me remettre en mouvement et me remettre en route.
Ouais, complètement. Et là, je suis encore au début de cette démarche et je sens que je manque complètement de mots.
Vous allez les inventer.
Voilà. Non, mais par exemple, dans l'idée de spectacles qui sont liés plus au théâtre, il y a l'idée de narration, il y a l'idée de personnage, etc. Je ne sais pas encore quoi utiliser comme mots qui ne sont pas la narration ni les personnages. Je ne veux pas dire à narration ou à personnage. Donc, on ne va pas continuer ce relatif et ces mots négatifs. Donc, il y a vraiment des choses, effectivement, à inventer. Enfin, en tout cas pour moi.
Ce qui est important et qu'on a trop peu étudié en histoire du théâtre, et alors encore moins en concernant l'histoire du cirque, et c'est une des grandes forces du cirque, c'est la question de la représentation de la société. Le théâtre, la scène, et a fortiori la piste en ce qui nous concerne, ont pour objet de raconter, c'est le storytelling en live, hein, c'est le cas de le dire, là, vraiment, c'est du live storytelling, mais toujours en relation avec ce qui se passe dans la société. Ça, la dimension actualité va être vraiment une veine d'inspiration et de créativité et de spectacularisation que va exploiter le cirque parce qu'il n'a pas de répertoire à la différence du théâtre. Et alors, il ne démarre de rien et donc peut tout se permettre, mais en même temps, ils ont l'interdiction d'exploiter le répertoire des théâtres privilégiés à Londres comme à Paris. Par conséquent, on va prendre
ce qu'il y a.
Et c'est dans cette inventivité que l'absorption de tout ce qui se passe dans la société, de l'actualité, va faire une des grandes forces. Alors l'actualité, c'est quoi ? C'est évidemment les pratiques qui ont du succès et qu'on va démocratiser, qu'on va rendre accessible parce que visible. Donc on va représenter la course au renard. Et puis ça va être l'événement, alors, l'actualité. Et ça, l'a plus récemment. On a des études, notamment en sociologie, en anthropologie, des représentations de l'histoire de soi, de l'événement, mais on l'a très peu en histoire. On a eu quelques études sur le théâtre national. Néanmoins, le cirque, le théâtre équestre, pendant un siècle, est une sorte de télévision avant l'heure.
C'est une archive de Caroline Audac en 2014 au micro d'Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. C'est une archive que vous devez connaître un tout petit peu, Maroussia Diaz-Verbeck. On a cru reconnaître quelques phrases qui composent le texte de votre spectacle Circus Remix. C'est intéressant ce qu'avance ici Caroline Audac, c'est l'idée que, bien sûr, le cirque, et on vient de le dire pendant le début de l'entretien, est beaucoup passé par « on y fait ce qu'on ne fait pas » ou « on y fait le contraire d'eux ». Mais ça n'est pas un espace qui est délié du monde, ce n'est pas un espace qui est coupé du monde. Et c'est quelque chose que vous traitez dans le spectacle, notamment en faisant arriver la question de la répartition entre les sexes, en faisant intervenir des archives de Françoise Héritier, en faisant intervenir des questions qui traversent le monde contemporain et qui arrivent sur votre piste.
Oui, alors... là aussi, le travail de Caroline Audac, c'est quelqu'un que je suis allée rencontrer assez tôt. Justement par rapport à ces questions d'origine du cirque, c'est quoi le premier spectacle de cirque ? Parce que là aussi, on fait remonter le cirque à l'Antiquité, mais en fait, c'est l'acrobatie qui remonte à l'Antiquité. Le cirque, c'est donc en tant que forme de spectacle, c'est un moment dont l'histoire est toujours à imaginer, mais qui est assez précis dans l'histoire, qui vient d'un univers militaire, enfin tout un tas de choses qui sont très intéressantes quand on fait du cirque à connaître et à comprendre. Et Caroline Audac a fait un travail incroyable d'historienne là-dessus et elle m'a permis vraiment d'envisager des choses que je n'imaginais pas parce que aujourd'hui le cirque classique a une image qui correspond pas forcément à son histoire. Moi, j'ai vraiment vécu par le cirque contemporain une espèce d'absence de connaissances en fait sur le cirque. J'ai vraiment découvert.
Oui, parce que quoi, les gens pratiquaient une tabula rasa et oui, disaient, pour qu'on soit là aujourd'hui pertinent et en lien avec notre pratique, faut pas qu'on regarde ce qui s'est fait avant.
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a évidemment ça, l'idée de la table rase sur faire quelque chose de très très contemporain. Il y a le fait que c'est un art à transmission orale, donc il y a quand même peu d'écrit. Il y a là aussi un rapport. C'est pas qu'un rapport à la parole. Il y a vraiment un rapport à l'écrit qui est pas très évident. Et c'est un art qui donc n'a pas subi d'académisme, donc il n'y a pas eu la nécessité d'écrire noir sur blanc un tas d'éléments qui définiraient le cirque ou qui le composeraient. Ce qui peut être d'ailleurs une des forces, une liberté. Enfin, ce n'est pas un jugement de valeur. Il y a aussi, on peut le voir d'une manière très belle aussi. Mais le fait est que dans les bibliothèques, il n'y a pas énormément de livres sur le cirque. Enfin. Et quelque part, le fait de prendre des archives sonores de personnes qui parlent d'autre chose que le cirque pour leur faire parler du cirque, c'est un peu une manière de compenser et de tricher sur le monde qui parle pas beaucoup de cirque, je trouve. Et donc, Caroline Audac parle effectivement de cette idée qu'il y a un lien, en fait, avec l'actualité. Elle cite après dans cette émission que deux semaines après la prise de la Bastille, cet événement est mis en représentation en Angleterre dans un cirque. C'est pour ça qu'elle fait le lien avec la télévision.
Et où on pourrait penser avec les chansonniers, avec certains petits théâtres dans des villes où en effet aujourd'hui par exemple des sketchs d'humoristes ou même à la Comédie Française dans La Nuit des Rois, tout ce que vous voulez, en ce moment il y a des reprises de propos d'Emmanuel Macron, des Gilets jaunes, mais il y a une porosité très grande qui serait différente pour le cirque ou qui serait juste traduite différemment.
Apparemment, en fait, cette porosité a existé donc très fort, et c'est justement ça qui a donné un succès incroyable au cirque assez tôt, en fait, et succès qui a valu cette interdiction de la parole. C'est-à-dire, c'est par le fait qu'il y avait un rapport à l'actualité, une
trop
rapidité
vif,
trop vive, voilà, par rapport, ce qu'elle explique, c'est par rapport au théâtre royal qui était académisé, donc dans un lien au répertoire, et qu'il n'y avait pas cette mobilité. Et donc, il y a eu, oui, aussi trop de succès pour avoir besoin de ne pas concurrencer, en fait, le théâtre royal de l'époque. Et apparemment aussi, avant cette interdiction, dans les spectacles de cirque, c'était des programmes qui pouvaient durer assez longtemps, qui intégraient des petites pièces de théâtre, effectivement, de la danse, de la chanson. Donc il y avait cette dimension de grande variété.
Moi, j'ai vu donc dans tout ce numéro où vous êtes en équilibre sur une corde, vous avez, on imagine, un petit appareil qui diffuse une archive de Françoise Héritier sur un coussin, et vous tentez avec un micro d'essayer de la faire entendre. J'ai vu une manière de faire entrer des questions qui traversent notre monde contemporain, notre monde actuel, très liées à la condition féminine. Mais peut-être qu'il y a d'autres manières que vous avez de faire entrer l'actualité dans Circus Remix. Moi, j'ai vu ça comme un point d'orgue, mais...
Il y a un passage, justement, qui traite de cette idée que le cirque a en fait un rapport avec l'actualité, contrairement à ce qu'on peut, penser aujourd'hui. Et donc, je profite de cette idée pour, dans le texte, pour dire, par exemple, on pourrait parler de telle chose, d'actualité, telle chose, telle autre, et j'aligne comme ça une série de désastres de notre monde qui, moi personnellement, ont été des vrais petits chocs qui arrivent, je pense, à peu près tous les jours. Quand on peut aussi écouter la radio, il y a des fois des phrases qui sont, enfin, moi, qui me font m'arrêter, enfin, qui sont très dures, et je pense qu'on traverse ça assez régulièrement. Et le premier exemple, par exemple, c'est un tiers de l'humanité aujourd'hui ne peut plus voir la Voie lactée. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après, c'est encore plus triste, ce qui se dit. Et donc, cette série de chocs me fait aller me cacher sous le tapis de désespoir.
Dans le spectacle.
Dans le spectacle, voilà. Donc, il y a un je continue avec ça. Il y a un numéro où je tente de dompter de l'argent. Pas encore très au point. Et donc, je conclue avec le fait que c'est peut-être le défi du 21e siècle. Bon, effectivement, il y a plein de connexions, parce que il y a énormément de sujets qui me touchent, qui me concernent. Et cette manière de composer, qui me semble être vraiment particulière au cirque, de juxtaposer plein de numéros et en fait plein de sujets et mille sujets, c'est-à-dire que c'est très difficile de résumer quand on me demande, mais votre spectacle, c'est sur quoi? Là, je suis vraiment perdue, parce que à part dire ça parle de tout et de rien, bon, c'est difficile de répondre, parce que justement, il y a cette
la diversité dont vous parliez tout à l'heure, et qui est, en fait, si on essayait d'aller dans votre sens et de dire c'est quoi la circographie, ou c'est quoi l'écriture propre au cirque, ce serait l'une des réponses possibles.
Exactement.
Plein de choses en même temps.
Tout à fait.
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Maroussia Diaz-Verbeck.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est clair, je sais pas. Ça va? Ça va sans le dire? Pourquoi ça irait pas? Ça va comme un expire qui ne s'arrêterait pas. Comme quand rien ne t'inspire, comme dans un monde plat. Quand finit pas de finir, d'écraser sous son poids l'idée et le désir de dire des trucs comme ça. prenons la main. Car on se prépare au pire sans merci ni de rien. Camouflé sous un sourire, sous un ouais ouais, ça va bien. En fait, on enregistre le tir caché derrière ce refrain. It was really, really great. I could make it better. How will it go on? How will it go on? How will it go on later? Will it turn you on? Will it turn you on? This is what matters.
On sent aujourd'hui dans les écoles du cirque comme s'il y avait une recette et qu'il fallait faire beaucoup de musculation pour arriver à faire des choses. Ils font beaucoup trop de musculation, ce qui fait que ça fait des corps très rigides qui sont modelés non pas par le travail qu'ils font en acrobatie, mais par la musculation. Et du coup, ça donne une dérive, ça rend par exemple l'acrobatie plus stérile parce que elle est très dirigée par une façon de faire d'abord. Alors qu'elle devrait être dirigée par le mouvement lui-même. Comme un danseur, il a une musculature particulière, un acrobate ou un nageur, c'est particulier à chaque discipline. Et je pense que ça, c'est ce qui est un peu dommage en ce moment, c'est que c'est très dirigé comme de la gym, en fait. Et donc après, ça empêche un peu la créativité. C'est-à-dire un enfant, lui, il n'a pas appris à se muscler en faisant de la musculation, il a appris en grimpant aux arbres ou en sautant sur un manège, et ça change tout, quoi. Ça change aussi l'approche qu'on a avec l'acrobatie.
C'est la voix de Bonaventure Gacon. Il était venu ici avec Titoun pour parler récemment de son travail. Maroussia Diaz-Verbeck, on parle avec vous de votre travail, Circus Remix. Et c'est assez important que Bonaventure Gacon parle du corps parce que, à de nombreuses reprises dans votre spectacle, vous dites on va faire avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est d'abord le corps. Et dans vos notes et dans vos textes de recherche, vous dites ce sera ça la star. S'il y a une star dans le cirque, ce sera le corps, ce sera ce que nous sommes. Et il y a un moment donné où au milieu d'un numéro de danse et d'acrobatie, vous levez votre vêtement et puis vous avez des dessins d'entrailles pour dire que faire avec ce qu'il y a, ce sera très profond, quoi. Ça veut dire quoi pour vous, faire avec ce qu'il y a ?
Alors, faire avec ce qu'il y a, ça remonte à plein de choses. Je pense, Caroline Dodac, par exemple, tout à l'heure, parlait du fait de pas avoir de répertoire. Donc il y a cette liberté-là, où il y aurait comme rien d'imposé. Mais la piste, la scène impose déjà quelque chose, c'est-à-dire soi-même, si on y rentre, c'est déjà énorme. Donc effectivement, c'est une question qui est quasiment qui crée une base en fait dans mon travail de circographie, qui est qu'est-ce qu'il y a déjà effectivement. Donc le fait de faire un solo, je suis partie aussi de là. Donc il y a une petite femme brune acrobate. Donc la question du corps, elle est effectivement forte. C'est pour ça que c'est le premier numéro. C'est aussi pour pouvoir après aller plus loin. Parce que souvent le cirque est réduit, ce que je disais, à l'acrobatie ou au corps. Mais c'est vrai que ça reste la base, ça reste central, en tout cas pour moi. Et l'histoire des entrailles, c'était aussi par rapport au fait qu'on a beau travailler son corps tous les jours, on ne connaît rien de ce qu'il y a dedans. Enfin, je trouve que c'est assez vertigineux. Moi, je ne sais pas exactement où est mon foie. Donc, on est à la fois nous-mêmes et à la fois remplis d'un mystère qui nous échappe. Enfin, en tout cas, moi, qui m'échappe.
Ça veut dire que pour Circus Remix, parmi toutes les questions que vous mettez au travail, les questions que vous mettez en mouvement, il y a aussi qui je suis. Ça veut dire quoi, faire avec ce qu'il y a? Ça veut dire faire avec ce que je suis?
Oui, forcément. Enfin, il y a forcément cette question-là. Qui c'est moi, ouais. Qui c'est moi? Et la réponse, elle est peut-être aussi. Il y a une phrase dans le spectacle qui dit le jeu est un autre de Rimbaud, et peut-être aussi une formule biogénétique très profonde. Donc qui correspond aussi vraiment avec le fait de faire parler les autres pour parler soi-même. Finalement, est-ce qu'on fait pas penser qu'avec la pensée des autres, les idées elles nous appartiennent à tous un peu en même temps, on les échange, on est le fruit d'énormément de choses avant même nos atomes.
D'ailleurs, vous intégrez les spectatrices et les spectateurs, puisque dans le discours muet du départ, vous évoquez même la télépathie en disant « ben non seulement je fais parler les voix des autres pour dire des choses que j'aurais éventuellement à vous dire, mais en plus, peut-être que votre propre pensée va rentrer en jeu et qu'on va être une immense, grande pensée à l'œuvre pour Circus Remix. »
Oui, il y a forcément une idée de connexion. En plus, le fait de faire un solo, c'est sûr que c'est quelque chose de très personnel. C'est vraiment une invitation à rentrer dans ma tête ou à rentrer dans mes yeux.
Et il y a plusieurs fois où on entend les archives dire « elle est ceci » ou « elle fait cela ».
Ouais, on essaye de créer, en tout cas moi j'essaye de créer cette connexion. Et le cercle en plus décuple vraiment cette connexion, parce que en plus, on est tous souvent sur un plateau de théâtre. Le gradin, il se monte sur un plateau de théâtre, donc on est tous ensemble. Et il y a cette chose quand même magique qui se passe de connexion, alors que j'explique pas, on ne se connaît pas, et pourtant il y a quelque chose d'assez profond, et pas qu'une chose. J'ai mis quasiment toutes mes questions dedans.
On va revenir sur la piste et sur le cercle que vous décidez de garder, parce que c'est aussi des choses qui peuvent être questionnées, cette piste circulaire. Mais avant cela, puisqu'on parle de la manière dont vous interagissez avec le public, il y a un geste quasiment inaugural dans Circus Remix qui consiste à prendre un matelas, on appelle ça comme ça ?
Un tapis,
à l'éventrer. Et à distribuer des bouts de tapis comme ça, d'abord tranquillos, et puis ensuite à les balancer un petit peu partout aux personnes qui composent le public, et en disant une phrase qui est « la vie quand elle est ouverte ».
Ces espèces de trucs noirs
qui apparaissent
une fois que la vie est ouverte, ouais.
Ouais. Je sais pas, j'avais bien envie de vous entendre un peu plus en longueur sur ce geste-là.
Alors, donc je distribue effectivement des bouts de tapis de réception qui sont des coussins pour le public, parce que au cirque, on est souvent mal assis sur les gradins. Donc les coussins permettent d'être mieux assis. Et il se trouve que les coussins sont noirs. Et j'avais trouvé une phrase qui disait ces espèces de trucs noirs... qui évoque tout un tas de sujets, de problématiques qu'on va partager et aborder allègrement ensemble.
Mais c'est aussi la boule à facettes qui s'ouvre lorsque vous êtes en haut, que vous effectuez différents numéros. C'est aussi donc ce matelas qui s'ouvre et qui révèle. C'est aussi ce t-shirt que vous soulevez pour révéler les entrailles, comme si dans Circus Remix il y avait une manière de ouvrir les choses qui sont en l'état pour voir ce qu'elles ont à nous dire, pour mettre les mains dans le cambouis, quoi.
Ouais, il y a une journaliste qui parlait de comment ça s'appelle, de dissection.
De dissection.
C'est vrai qu'il y a il y a cette idée-là de pourquoi c'est comme ça, aller voir comment c'est fait, complètement, ouais, complètement.
Ce qui reste, c'est toute l'expérience de se confronter au monde avec son corps, avec sa matière. Après, ce qui peut rester, pour moi, au niveau du cirque, ça va être d'abord l'espace, qui est l'espace des points de vue, et de développer des pratiques minoritaires dans cet espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me tourne vers des pratiques minoritaires non traditionnelles, et je laisse les pratiques minoritaires traditionnelles au cirque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me définis plus vraiment comme un artiste de cirque, mais comme un praticien de l'espace des points de vue. C'est-à-dire que je cherche un espace un peu plus libre et plus ouvert que ce à quoi correspond le cirque aujourd'hui. Et tout ce que je fais dans mes travaux se développe avec l'idée de le montrer dans l'espace des points de vue. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans l'espace des points de vue ne va pas réfléchir de la même manière que quelqu'un qui travaille sur une scène frontale. C'est comme le rapport d'un sculpteur ou d'un peintre. Il n'y en a pas un. Enfin, c'est deux mondes et deux manières très spécifiques d'envisager le geste.
Je crois qu'il n'y a pas de dimension à imposer à un cirque. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de dimension idéale, mais il y a en tout cas une règle d'or, c'est que le cirque, c'est une arène. Si au cirque, les artistes disent qu'ils travaillent dans la piste, c'est parce qu'ils travaillent dans l'arène. On ne travaille pas sur une arène ni sur une piste. Donc, ça veut dire que Kni, par exemple, est l'image idéale parce que cette espèce d'entonnoir où tout converge vers le cercle de 13 mètres de diamètre, c'est formidable, c'est le vrai contact avec le public, et ça, je crois que c'est absolument indispensable d'avoir un cirque rond et en arène. Moi, je veux dire que pour les artistes, je veux dire quelqu'un qui parle de la rentabilité du cirque résonnera différemment, mais je veux dire pour le public à qui on destine ce spectacle, c'est la meilleure façon de lui donner.
Deux archives qui se suivent et ne se ressemblent pas, mais qui questionnent cette forme dont on parlait avec vous, Maroussia Diaz-Verbeek. D'abord, Joanne Le Guilherme qui parle de sa pratique comme celle d'un praticien de l'espace des points de vue. Et ensuite, Pierre Etext en 1982, qui parle peut-être plus classiquement de cette piste circulaire. Vous, c'est quelque chose que vous avez décidé de conserver et puis même vous jouez avec parce que vous enlevez des peaux successives, parce qu'on sent que voilà, ce cercle-là vous intéresse. Pourquoi ?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que je ne l'ai pas conservé. C'est la première fois que je fais un spectacle en circulaire. Tous les autres spectacles que j'ai faits...
Étaient quoi, frontaux ?
Voilà, étaient frontaux. Le spectacle d'avant... Enfin, tous les spectacles que j'ai faits en étant sur scène, donc sur la piste. C'est le premier. C'est la première fois que je fais vraiment l'expérience du cercle.
Et alors ?
Et alors, c'est vrai que c'est encore plus fort que ce que j'avais imaginé. Enfin, Joanne Guilherme est quelqu'un qui... Dans mon chemin de réflexion est très important. C'est une des rares personnes, c'est comme quasiment le contre-exemple de ce que je disais par rapport à l'univers du cirque contemporain. C'est quelqu'un qui a posé pour moi des bases très importantes pour penser le cirque essentiellement au niveau de l'espace. Et donc il parle énormément de l'importance du cercle.
Du cercle, du point.
Exactement, de la multiplicité des points de vue, l'architecture de l'attroupement, etc. Et c'était des choses que je trouvais intéressantes conceptuellement. Mais je me disais, oui, c'est important, mais peut-être que c'est pas si important. Enfin, je le relativisais. Mais le fait de vraiment le vivre, c'est clair que ça n'a rien à voir avec le frontal. C'est-à-dire que c'est un rapport au public qui est quasiment l'inverse, quoi, par rapport.
C'est-à-dire, vous sentez vu et regardé de partout, vous sentez.
Ouais, il y a les deux choses, c'est-à-dire que c'est à la fois très impressionnant, donc il y a vraiment la notion d'être à nu, d'être vu. Il y a la notion de vulnérabilité qui est très très forte, qui est plus forte pour moi que dans l'idée de frontal où il y a quand même une certaine forme de pouvoir. En quelque sorte.
De vous ou des gens qui sont autour ?
En frontal, moi j'ai ressenti une sorte de pouvoir à être sur scène en frontal. Il y a une forme de maîtrise, parce qu'aussi on peut cacher des choses. Là, en circulaire, on ne peut rien cacher, c'est-à-dire que Voilà, il peut arriver énormément de choses. Ça peut tomber, le costume peut se craquer. Enfin, en fait, on ne peut pas se cacher. Donc ça, c'est un point de vulnérabilité qui est vraiment maximum, quoi. Et en même temps, moi, la sensation la plus forte que j'ai, c'est le fait d'être portée par le public. C'est-à-dire que cette vulnérabilité, sûrement, elle implique derrière une empathie, une connexion qui est très très forte. Qui est un peu magique.
C'est-à-dire quand Pierre et Texte parlent d'une arène, c'est pas exactement ce que vous vivez.
Bah, c'est vraiment ambigu, c'est-à-dire qu'il y a les deux, l'arène évoque cette idée d'une vulnérabilité, de difficulté. Il y a une notion de peur, c'est des espaces qui font peur. Et en même temps, pas du tout, parce que on est englobé, quoi. On est vraiment porté. Moi, j'ai vraiment la sensation d'être porté à partir d'un moment du spectacle.
C'est bien que cette empathie, c'est comme si vous la renvoyez aussi. Et on parlait tout à l'heure de la manière dont vous faites intervenir le public, et à la fin, vous les faites saluer, certains d'entre eux. D'entre elles, avec vous, en portant des mots en drapeau, ça veut dire qu'il y a une co-composition, ça veut dire que tout le monde doit être applaudi.
Ben, c'est vrai, un petit peu, c'est une parade finale, qui est une parade classique. À la fin des spectacles de cirque, tout le monde qui a fait le spectacle de cirque vient saluer. Il y a souvent l'idée des drapeaux, parce que chacun vient avec sa nationalité. Donc là, il y a
dans les grands cirques qui sont composés de plein de numéros de personnes.
Exactement.
Qui viennent du monde entier.
Voilà. Et donc ça fait un grand moment comme ça à la fin, qui est assez festif. Et donc moi, je l'ai détourné avec le fait que chaque drapeau correspond à une notion, donc qui est abordée dans le spectacle, et qui est chaque numéro est un peu une notion. Et vu que je suis toute seule, je peux pas porter les 15 drapeaux, donc effectivement le public vient porter avec moi ces notions pays. et oui, ça donne cette idée effectivement que les spectateurs on a vécu tellement quelque chose ensemble que oui, le spectacle il est porté en fait par tout le monde, et puis l'idée de toutes ces voix aussi ramène à cette multiplicité. Il y a l'idée de Corinne Pantin qui a beaucoup travaillé sur le cirque comme image du monde, c'est-à-dire en quoi, pourquoi le cirque il arrive à ce moment-là de l'humanité, en quoi il vient répondre à peut-être une certaine vision du monde. Donc l'idée de...
Et quoi, d'un moment où on avait à la fois conscience que le monde il était plus large qu'avant, que c'était plus grand que ce qu'on pensait, et en même temps une difficulté de le représenter ou de se le représenter.
Eh ben, si le théâtre, à un moment, on peut faire l'analogie avec le théâtre du monde, on joue tous des rôles, il y a l'idée de destin, d'histoire, etc., qui est une manière de se représenter la vie. Le cirque n'utilise pas du tout ces concepts-là, il en utilise d'autres. En quoi ça parle de notre vision du monde? Donc ça donne quoi? Ça donne une juxtaposition de choses différentes, donc en fait une cohabitation de diversité. Ça peut être une manière, moi en tout cas c'est une manière vers laquelle je vais par rapport au cirque. Il y a une espèce de catalogue comme ça. Dans le cirque classique, c'est très fort aussi parce que c'est des pays différents, donc en fait on voit des gens de tous les pays. Là, dans Circus Remix, il y a l'idée de notions, donc de juxtaposer des notions, des idées très très différentes avec lesquelles on doit composer sans forcément réussir à les hiérarchiser et à en faire déduire l'une par rapport à l'autre. Et peut-être qu'il faut, il faut peut-être rester à un moment donné dans cette juxtaposition.
Comme une cohabitation. Heureuse.
Voilà. Au-delà de ça, c'est plus important que ça. Peut-être qu'il y a à accepter ou à vivre avec le fait qu'il y a toutes ces contradictions. Nous cohabitons tous. Et ça peut être une fête aussi.
Je ne vous le fais pas dire,
mais il faut savoir avoir peur. Et puis au sol,
la science
libère
la peur.
voilà qui. Elle veut toujours comprendre et savoir ce qui lui a fait peur pour ne pas être assujettie à ses peurs.
Absolument.
Et elle ne veut pas être assujettie à ses peurs comme elle ne veut être assujettie à rien.
Le moment est bien choisi, en tout cas, pour te demander ce qu'on fait là.
Mais je préfère mille fois la patience.
C'est impossible, mais je le fais quand même.
Mauricia, vous êtes prête?
On parlait du pouvoir d'évocation du son avec vous pour ce spectacle Circus Remix. Lorsque vous entendez ce son-là, est-ce que vous vous sentez prête à vous jeter dans le vide, Maroussia Diaz-Verbeck?
Oui, c'est vrai que cette musique correspond au saut de la mort. Donc là, quand je l'entends, effectivement, mon corps...
Ouais, on sentait sur votre chaise, vous étiez plus hyper tranquille. On se termine avec cet extrait de votre spectacle Circus Remix et on réannonce les dates. On pourra donc le voir jusqu'au 8 février, demain à Cergy.
Au Théâtre 95.
Au Théâtre 95, ensuite au Prato à Lille les 3 et 4 avril et au Théâtre d'Elbeuf les 9 et 10 mai. Ensuite, ce sera une tournée en France en 2019. Merci beaucoup.
Merci.
Le monde, pourquoi des fois je me demande si les filles et les garces sont si cruels, où sont mes vrais amis, pourquoi je me méfie, qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices, oui personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle, et peu importe si l'homme reste si cruel, avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté, pourquoi tout le monde.
Au son ce soir, c'était Philippe Mercher à la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Romain Debec de Lièvre et Lou Quevauvillé qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les soirs. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de Par les temps qui courent, abonner votre famille, vos cousins, vos amis, vos chéris, vos amants, vos maîtresses, votre chien. Plus on est nombreux, nombreuses, plus on est heureux. Heureuse. Dans un instant, le journal. Très belle soirée sur France Culture.
Mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble, ça paraît si facile. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi,